Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous inviter à passer un peu de temps ensemble dans le livre de Malachie. Alors, vous savez sûrement la particularité de ce livre, c'est que c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Alors, ce qui le rend remarquable, c'est pas tant qu'il soit facile à trouver dans notre Bible. Vous cherchez Matthieu, vous revenez un petit peu en arrière et le tour est joué. Ça, c'est juste un bonus. Il est surtout remarquable parce que c'est la dernière fois que Dieu va parler à son peuple avant de marquer une longue pause. Une pause qui va durer plus de 400 ans et une pause qui nous mènera ensuite jusqu'au Nouveau Testament. C'est donc un livre qui sert un peu d'articulation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, à chercher ce livre de Malachie. Mais avant de plonger dans le texte, on a besoin de comprendre un peu le contexte dans lequel il a été écrit. L'Ancien Testament nous raconte l'histoire du peuple d'Israël, un peuple que Dieu a choisi, pour révéler au monde son existence, pour révéler au monde son caractère et pour révéler au monde son plan pour sauver non pas juste le peuple d'Israël, mais pour sauver l'humanité tout entière. Et toute l'histoire de ce peuple d'Israël, qui nous est racontée au travers de l'Ancien Testament, est marqué par des hauts et des bas, des périodes d'obéissance, des périodes de désobéissance, voire des périodes de rébellion complète contre Dieu. Et tout au travers de cette histoire, on découvre en parallèle de ça un Dieu qui va généreusement bénir son peuple, un Dieu qui va faire preuve de beaucoup de patience et d'amour à l'égard de son peuple. Et on découvre aussi un Dieu qui est saint. Rolly nous a rappelé ça ce matin, et Ruben aussi. Un Dieu qui est saint et qui doit parfois aussi agir, quand c'est nécessaire, avec sévérité face au péché de son peuple. Et c'est ce qui va arriver environ 600 ans avant Jésus-Christ. Dieu a utilisé Babylone, qui était la superpuissance régionale de l'époque, une grande nation. Dieu a utilisé Babylone comme l'instrument de son jugement contre son peuple. Il va donc permettre à Babylone d'envahir le pays et de procéder à une déportation progressive de son peuple, un jugement sévère. Et cet événement tragique atteindra son apogée quelques années plus tard, lors de la destruction du temple de Jérusalem et du saccage de la ville de Jérusalem elle-même. Le peuple de Dieu se retrouve donc arraché à son pays et surtout privé de ce qu'il avait de plus précieux, la présence de Dieu qui se manifestait dans son temple à Jérusalem. Globalement, le peuple en exil aura compris la leçon. Il va s'humilier, il va rester fidèle au Seigneur pendant ce temps de l'exil. Et 70 ans après, arrive enfin, une période longue, arrive enfin le temps du retour, promis par Dieu et annoncé par Dieu. C'est un retour qui se fait sous la conduite de deux prophètes, Ezra et Néhémie. Et c'est un retour qui est plein d'espoir, l'espoir du rétablissement de la nation d'Israël. Grâce à l'action d'Ezra et de Néhémie, les Juifs retrouvent une certaine organisation, une organisation politique, une organisation religieuse. Le temple est reconstruit et Jérusalem est rebâti. Et arrive ensuite le prophète Malachie. Malachie est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament et il écrit environ 80 ans après le retour de cet exil. C'est donc un message qui s'adresse aux Juifs qui sont à Jérusalem depuis maintenant un certain temps. C'est la première génération qui n'a pas connu l'exil. Et à cette époque, l'histoire du peuple, on doit peut-être la caractériser avant tout comme un temps d'attente, une période de l'entre-deux. Un temps entre d'un côté des promesses déjà accomplies, le retour de l'exil, la reconstruction du temple, et de l'autre des promesses qui ne sont pas encore accomplies. Voici justement une de ces promesses qui a été laissée par le prophète Agée et qui aurait été fraîchement en tête dans l'esprit du peuple à cette époque-là. Agée écrivait seulement quelques décennies avant Malachie. Je lis dans Agée au chapitre 2, les versets 6 et 7, « Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, une fois encore et dans un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme, j'ébranlerai les peuples, et les richesses de tous les peuples afflueront en ce lieu c'est Jérusalem. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. » Mais quand Malachie écrit, 80 ans après le retour de l'exil, la plupart des Juifs ne peuvent pas s'empêcher de lire ces promesses avec une certaine amertume. Parce que le moins qu'on puisse dire, quand Malachie écrit, le bilan est quand même assez mitigé. Globalement, le sentiment, il est le suivant. Oui, Dieu a été fidèle à sa promesse de libérer son peuple, de permettre le retour de l'exil. Oui, Dieu a été fidèle et a permis une certaine restauration de la nation, la reconstruction du temple, mais quand même, c'est pas top. C'est pas top d'abord sur le plan politique. Leur territoire est minuscule, seulement quelques kilomètres carrés, et ils sont entourés et menacés par les nations et les peuples rivaux qui les entourent. Ils ont pour leader un gouverneur, ils attendaient un roi, ils ont un gouverneur qui n'est en fait qu'un relais du pouvoir babylonien. Et dans tous les cas, cette prophétie d'Agée qui dit que les richesses de tous les peuples afflueraient sur Jérusalem, ben, c'est pas tout à fait ce qui se passe du tout. Ensuite, c'est pas top non plus sur le plan religieux. Oui, le temple a été reconstruit, mais il est moins grand, il n'a pas le même éclat que le temple qu'ils avaient connu avant l'exil. Et surtout, Dieu n'est pas revenu se manifester, manifester sa présence, manifester sa gloire dans ce temple. C'est un temple qui reste quelque part vide. Donc quand le prophète Agée écrit « Quant à ce temple, je le remplirai de gloire », la question qui brûle les lèvres de chacun des Juifs, c'est « Quand ? Quand est-ce que tu vas faire ça, Seigneur ?» Et de ce contexte un peu particulier, ce contexte d'attente, cette période d'expectative qui commence à durer un peu trop, va découler une série de problématiques spirituelles qui seront la préoccupation première de Malachie et qui seront aussi notre préoccupation première ce matin. Voici comment Malachie ouvre son livre. Je lis dans le chapitre 1, le verset 1 de Malachie, « Message, parole de l'Éternel, adressé à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? » Ça commence fort. Dès ce premier verset et tout au long des trois chapitres qui vont suivre, Malachie va exposer une longue série de reproches et d'accusations adressées par Dieu à son peuple. Et cette confrontation va prendre la forme d'une conversation, une conversation imaginaire entre Dieu et son peuple, mais une conversation qui reflète bien l'état d'esprit réel du peuple à ce moment-là. En voici simplement quelques extraits. Chapitre 1, verset 6. « Vous méprisez mon nom et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Verset 7. « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé ?» Chapitre 2. « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué ?» Au chapitre 3. « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous dites, en quoi devons-nous revenir ?» Toujours au chapitre 3, verset 8, « Vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ?» Et enfin, verset 13 du chapitre 3, « Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ?» À chaque fois que Dieu va porter une accusation, le peuple va questionner cette accusation, remettre en cause ce que Dieu dit, et Dieu va ensuite répondre pour réaffirmer la culpabilité du peuple, preuve à l'appui. Alors on n'a pas le temps ce matin ensemble de lire l'ensemble de ce texte, je vous encourage à le faire chez vous, c'est seulement trois chapitres. Mais globalement, Dieu reproche à son peuple les choses suivantes. Il leur reproche de remettre en cause son amour, l'amour qu'il leur a déjà démontré, et de manquer de reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait pour eux par le passé. Il leur reproche de déshonorer Dieu en lui rendant un culte à contre-cœur et en lui offrant des offrandes impropres. Il leur reproche de manquer de fidélité à l'alliance qu'il a conclue avec eux en refusant de lui obéir, notamment dans le domaine du mariage et de la dîme. Et pour finir, il les accuse de blasphémer et de fatiguer Dieu, il faut le faire, arriver à fatiguer Dieu, en affirmant qu'il n'exerce pas sa justice et qu'il est donc inutile de le servir. Et au travers de ce dialogue, Malachie va dresser quelque part un drôle de portrait. C'est le portrait d'un peuple qui avait peut-être l'apparence du peuple de Dieu. Après tout, ils étaient au bon endroit, à Jérusalem, dans le temple, et c'était quelque chose qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années avec l'exil. Ils étaient au bon endroit, et ils faisaient grosso modo ce qui était attendu de leur part. Les sacrifices étaient offerts au temple, et les prêtres officiaient pour rendre le culte à Dieu. Mais ça, c'était juste la vue d'avion. Dès qu'on s'approche un petit peu, le faux semblant disparaît, et on se rend compte très vite que ce peuple avait une vie spirituelle qui avait été vidée de son sens, et qui avait été relayé au second plan de leurs priorités. Ils avaient peut-être l'impression de sauver les apparences, d'où ce questionnement qu'on revoit, un peu gonflé de leur part, du peuple qui vient chaque fois rétorquer dès que Dieu adresse un reproche. En quoi avons-nous méprisé ton nom ? En quoi t'avons-nous trompé ? Mais Dieu n'est pas dupe. Si vous êtes parent, vous connaissez peut-être ça avec vos enfants. Alors c'est toujours risqué de dire ça depuis le pupitre, parce qu'après on se rend compte que c'est juste nos enfants et pas ceux des autres, mais vous me direz après si vous reconnaissez là-dedans. Il y a généralement deux catégories de bêtises. Il y a la grosse bêtise bien visible, celle où l'enfant ne fait pas le fier du tout. Il sait très bien ce qu'il a fait, et il sait très bien qu'il est responsable de ce qu'il a fait, et quand arrive l'heure de la punition, on n'entend pas trop le son de sa voix. Puis après, il y a les autres bêtises, qui ne sont pas forcément moins graves, mais où l'enfant s'est dit bah, « ça va passer, je pense que je vais pouvoir m'en tirer ». Et quand finalement il est confronté, il y a cette réponse presque trop rapide, automatique. « Quoi, moi ? Moi, j'ai fait ça ? Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi ». Et c'est un peu cette impression-là qu'on a en lisant Malachi. L'impression d'une certaine naïveté du peuple quant à l'état réel de leur vie spirituelle. Un peu comme cet enfant qui se dit « oh, ça va passer, c'est pas grand-chose, et je pense pas, je vais pas me faire attraper ». Et on se rend compte très vite qu'il y a un schéma qui se dessine ici. Ils sont rentrés de l'exil pleins d'espoir, accrochés aux promesses de Dieu, mais au fil des années, pendant ce temps d'attente, cet espoir a diminué et petit à petit, il s'est effacé. Le zèle pour Dieu a commencé à décliner, et avec ce déclin, leur discernement et leur force morale a aussi diminué, et petit à petit, le péché s'est installé dans leur quotidien. Le portrait brossé par Malachi est celui en fait d'un peuple désenchanté, un peuple blasé par Dieu, un peuple désabusé qui a su mal gérer ce temps de l'attente. Et il y a une certaine ressemblance entre l'époque de Malachi et la nôtre. Nous sommes aussi dans une époque d'attente, une époque de l'entre-deux. Une période de l'histoire où Dieu a déjà accompli des choses pour nous en Jésus-Christ, mais aussi un temps où on attend l'accomplissement de promesses futures de Dieu concernant le retour de Jésus-Christ. Et cette question, du coup, elle nous est posée aussi. Comment est-ce qu'on vit dans l'attente des promesses de Dieu ? Alors, au-delà de cette grande attente du retour de Jésus qui nous concerne tous, on a peut-être dans notre vie des temps d'attente très personnels vis-à-vis de Dieu. Peut-être qu'on estime que Dieu nous doit quelque chose, un travail, des résultats scolaires, la résolution d'une situation familiale, d'une situation de santé qui nous concerne nous ou un proche. Peut-être qu'après une période difficile, notre mini-exil à nous, on se dit quand même, Seigneur, il serait temps que tu fasses quelque chose pour moi. Quelles que soient ces attentes, qui peuvent être justifiées ou non d'ailleurs, peut-être qu'on rentre dans ce même schéma. Le découragement s'installe, notre zèle pour Dieu décline, et petit à petit le péché s'installe dans notre vie. Et à notre tour, on devient blasé et désenchanté avec Dieu. Alors d'abord on se dit « ah c'est rien, c'est pas grand-chose », on est un peu naïf par rapport à notre situation. Et quand finalement on est confronté à la pauvreté de notre vie spirituelle, quand Dieu nous reprend, quand il nous prend la main dans le sac, on a cette même réaction. Moi, je ferai ça ? Non, Seigneur, sûrement pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait contre toi ? Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce schéma. Je peux témoigner que dans ma vie, il y a eu des cycles comme celui-là. Et heureusement que le Seigneur est là, que nos frères et sœurs en Christ sont là pour nous aider à déceler ça. Ça peut être pas évident à déceler ça dans notre vie. Et heureusement, Malachi aussi ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas simplement avec ce constat. Il nous offre aussi une solution et un espoir incroyable. Je lis maintenant dans Malachi au chapitre 3, à partir du verset 1. Malachi nous dit, voici, c'est l'Éternel qui parle, voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin, et soudain il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il apparaîtra ? En effet, il sera pareil à un feu purificateur. Votre version de la Bible dit peut-être une autre traduction, le brasier du fondeur. Il sera pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Tout d'abord, une clarification est nécessaire. En lisant ce texte, il faut pouvoir identifier trois personnes. Premièrement, il y a la personne qui parle. La personne qui dit au début « voici, j'enverrai ». Cette personne, c'est l'Éternel. C'est Dieu le Père, celui qui parle depuis le début du livre par l'intermédiaire de Malachi. C'est le jeu de ce verset et le jeu qu'on retrouve tout au long des trois chapitres de Malachi. Ensuite, il y a un premier messager, celui qui doit préparer le chemin. Voici, j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. À la lumière du Nouveau Testament, on sait maintenant que ce messager est Jean-Baptiste, puisque trois des quatre évangiles citent ce même verset de Malachie pour identifier Jean-Baptiste. Et quelle était sa mission ? Sa mission était de précéder la venue de Jésus-Christ et de préparer le chemin en appelant le peuple d'Israël à la repentance. Et c'était son ministère quelques mois avant le ministère de Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième personne, le messager qui prépare le chemin et qui, du coup, prépare le chemin pour qui ? C'est la suite du verset. « Le Seigneur qui entrera soudainement dans son temple, le messager de l'alliance que vous désirez. » Le texte nous présente ici un deuxième messager, qui est une troisième personne, distincte du premier messager, distincte aussi de l'Éternel, et qui parle. Mais cette personne, cette troisième personne, on constate en même temps qu'elle ressemble beaucoup à Dieu. Il est appelé le Seigneur, et le texte nous dit que le temple lui appartient, il entrera dans son temple. Avec tous ces éléments, et surtout avec notre regard, grâce au Nouveau Testament que l'on a maintenant, on peut conclure que Malachie écrivait ici prophétiquement pour annoncer ce messager de l'Alliance qui n'est personne d'autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu au monde et précédé par Jean-Baptiste. Et voici ce que Malachie a à nous dire au sujet de ce messager de l'Alliance. Ça se passe au verset 2. Qui pourra supporter le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il apparaîtra ? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Et on a ici, je ne sais pas si vous le percevez encore, une situation assez incroyable, ou plutôt une situation contradictoire. D'un côté, on voit le désir de ce peuple de vivre, de ressentir la présence de Dieu. Rappelez-vous la prophétie d'Agée, ils attendaient de voir la gloire de Dieu revenir dans son temple. Et ici, le texte nous dit, il nous parle du Seigneur que vous cherchez, du Seigneur que vous désirez. Donc d'un côté, on voit ce désir du peuple de voir le Seigneur, d'expérimenter sa présence. Et de l'autre, en face de ça, on a l'Éternel qui leur dit « Mais regardez votre vie, regardez votre pauvreté spirituelle, j'ai une liste, une longue liste de vos transgressions, preuve à l'appui, et en plus vous avez le culot de la contester. » C'est comme s'il leur disait « Est-ce que vous savez vraiment ce que vous demandez ? Qui parmi vous pourra supporter le jour de sa venue ?» Et ce message que relaye Malachie, il ne faut pas se tromper, il est censé faire peur. Il est censé provoquer la crainte chez les contemporains de Malachie et chez nous aussi. Et je peux vous garantir que la lessive qu'il a en tête, ce n'est pas la formule douce pour sensible à l'aloe vera. Cette formule-là, elle n'existait pas encore. Mais l'image la plus marquante peut-être qu'il nous laisse, c'est celle du feu purificateur. Et j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur cette notion-là. Malachie va reprendre cette image au verset 19. Regardez ce qu'il nous dit. Toujours au chapitre 3, verset 19. « En effet, voici venir ce jour brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui viendra les embrasera, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. » Imaginez un peu l'état d'esprit des Juifs qui reçoivent ce message. Tout d'abord, ils se font quand même bien remonter les bretelles. Leur péché est exposé et nommé. Et maintenant, Malachie leur dit « Le messager de l'Alliance que vous attendez, que vous désirez, il sera pareil à un feu purificateur, brûlant comme un four, qui embrase les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal. » C'est un retour à la réalité un peu violent pour eux. Il y a un déphasage complet entre d'un côté la réalité de leur vie spirituelle et de l'autre ce qu'ils pensaient connaître de Dieu et ce qu'ils pensaient demander à Dieu. Et là encore, cette situation peut faire écho à ce que nous, on peut vivre aujourd'hui. On chante souvent ici le dimanche, je ne sais pas si on l'a fait ce matin, je n'ai pas fait gaffe à ça particulièrement, mais on chante souvent « Viens Seigneur, viens ». C'est facile à chanter, des fois on le chante sans trop y réfléchir. Est-ce qu'on réalise vraiment ce qu'on demande ? Est-ce qu'on veut vraiment que le Seigneur revienne soudainement ? Est-ce qu'on est prêt pour les conséquences de ça ? Ces versets qui sont placés là dans ce contexte sonnent comme une mise en garde pour le peuple d'Israël. Et ils sont là aussi pour nous empêcher, nous aussi aujourd'hui, d'avoir une vision trop naïve de qui est le Seigneur et de ce qu'il viendra faire dans notre monde. Notez que Malachie nous présente deux feux. D'abord, il y a le feu purificateur, comparé au verset 3 au feu du fondeur, ce feu qui est utilisé pour brûler les impuretés dans un métal précieux, pour garder, pour conserver uniquement le métal le plus pur et le plus précieux. Et ensuite, un deuxième feu au verset 19, le four brûlant qui embrasera les hommes arrogants qui font le mal. Ces deux feux ont la même source. Dans les deux cas, Malachie nous parle de l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce même feu sera donc pour les uns un feu purificateur et pour les autres un feu brûlant qui embrase et détruit. Du coup, la question vitale pour nous doit devenir à quel feu est-ce que je serai exposé ? Comment est-ce que je peux être sûr d'être exposé au brasier du fondeur et pas exposé au four qui embrase et qui ne laisse ni racines ni rameaux ? C'est une sacrée question, ça. Très clairement, la réponse ici ne peut pas être « débarrasse-toi de ton péché ». C'est pas ce que Dieu nous dit ici. Oui, Dieu pointe du doigt le péché, oui, il expose et il confronte le péché, mais face à ce péché, sa réponse, c'est pas « débrouille-toi », c'est pas « à toi de te débarrasser de ton péché ». Et pour ça, il y a une raison très simple. Si on devait se débarrasser de notre propre péché, pourquoi est-ce qu'il y aurait le brasier du fondeur ? Sans péché à purifier, il n'y a pas besoin de feu du fondeur. Ce feu-là est conçu pour les pécheurs. Donc la question se précise un peu. Elle devient, comment est-ce que le pécheur que je suis peut passer au travers du feu du fondeur pour être purifié au lieu d'être brûlé et détruit ? Et voici la réponse de Malachie. On arrive au verset 20 de ce chapitre 3. Malachie nous dit, mais, et le mais c'est le mot-clé le plus important ici, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Malachie nous dit ici que ceux qui craignent l'Éternel ne seront pas consumés et ne brûleront pas comme la paille. Dit autrement, ceux qui craignent l'Éternel n'ont pas à avoir peur de l'Éternel. Ça peut paraître un peu bizarre de formuler les choses comme ça, mais regardez ce que dit la Bible au sujet de cette idée de la crainte de Dieu. Quelques versets dans les psaumes. Psaume 25. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance. Psaume 147, l'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Et le psaume 31, ô combien ta bonté est grande, tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent, tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Regardez dans ces versets combien la crainte de Dieu est associée à l'idée d'être proche de Dieu. Dans le psaume 31, craindre Dieu est mis en parallèle avec l'idée de prendre refuge en Dieu. Ces versets nous disent « Ceux qui craignent l'Éternel ne le fuient pas, mais prennent refuge en lui. Ceux qui craignent l'Éternel se confient en lui, cherchent leur bonté, espèrent en sa bonté. » On doit craindre, on doit même avoir peur de la colère de Dieu à l'encontre de notre péché. La Bible est très claire là-dessus. C'est la crainte de ce four brûlant qui nous détruirait. L'image, elle nous marque et elle est faite pour ça. Mais, et là quand je dis « mais », c'est le même « mais » que ce « mais » qu'on avait au début du verset 20 de Malachie, et c'est toute la beauté de ce texte de Malachie, mais cette crainte qu'on a de la colère divine de Dieu contre notre péché ne doit pas nous pousser à fuir loin de Dieu. Au contraire, elle doit nous pousser à nous approcher de lui, justement pour trouver en lui un refuge à l'abri de sa colère divine et juste contre notre péché. C'est la définition là même de la grâce de Dieu que nous avons en Jésus-Christ. On trouve en Christ un refuge à l'abri de la colère de Dieu. Le prophète Ésaïe dira en parlant de Jésus, Ésaïe 53, « La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » En trouvant refuge en Christ, Dieu fait tomber sa colère sur Christ au lieu de la faire tomber sur chacun de nous. Et par ses blessures, nous sommes guéris. C'est ce que Ésaïe nous dit. Et c'est de cette guérison que Malachie nous parle au verset 20, la guérison qui se trouve en Christ, notre soleil de justice. Et il est question ici d'une guérison spirituelle, la guérison de notre âme, la guérison du péché que nous avons dans notre cœur. Quand on place notre confiance en Dieu, quand on craint l'Éternel, le feu reste là. Mais c'est un feu qui purifie, c'est un feu qui nous perfectionne, et c'est jamais, en aucun cas et sous aucune condition, un feu de la destruction. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ce feu-là, celui de la colère divine de Dieu, Christ l'a pris sur lui à la croix pour le pardon de nos péchés. Donc pour revenir à la question qu'on s'est posée tout à l'heure, comment est-ce que je peux passer au travers du feu du fondeur pour être purifié et non pas brûlé et détruit ? La réponse, par la crainte de Dieu qui nous permet de trouver refuge en lui et qui nous permet de placer notre confiance en sa grâce que nous obtenons en Jésus-Christ. Donc maintenant qu'on sait comment passer par le feu du fondeur, la question naturelle suivante, c'est à quoi ça ressemble la vie dans ce feu-là ? Si ce n'est pas un feu qui nous détruit, c'est un feu qui nous permet de vivre. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce feu-là ? Concrètement, je crois que cette vie dans le feu du fondeur peut prendre deux formes dans notre vie. Tout d'abord, la première forme, c'est le défi de la pureté. C'est quelque chose qui commence simplement avec le fait de voir son péché pointé du doigt et exposé par Dieu. C'est ce que Dieu a fait avec son peuple, c'est ce qu'il nous raconte dans ce texte de Malachie, mais c'est aussi ce qu'il fait au quotidien dans notre vie. Et comment est-ce qu'il fait ça dans notre vie ? Par sa parole et par l'œuvre de son esprit en nous. C'est ce feu qui éclaire les endroits les plus sombres de notre cœur. Mais ça passe obligatoirement par notre coopération aussi. Pour que Dieu puisse révéler ces choses-là dans notre vie, ça présuppose que l'on se place à son écoute. Et être à son écoute, ça fait partie de ce qu'on a appelé la crainte de Dieu. Est-ce que c'est un processus plaisant ? Non. Le feu du fondeur, ça reste un feu. Et l'image n'est pas anodine, elle n'a pas été choisie au hasard. Ça piquera sûrement un petit peu. Est-ce qu'on protestera comme les Israélites ? Non, moi faire ça, jamais. Probablement qu'on le fera. Mais est-ce que c'est nécessaire ? Oui, absolument. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains au chapitre 8, au verset 13. « Car si vous vivez à la manière de l'homme, si vous vivez selon vos propres principes, l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit de Dieu vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, alors vous vivrez. » On pourrait reformuler ce verset en y intégrant l'image du feu. « Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez dans le four brûlant. Mais si par l'Esprit vous faites mourir par le feu du fondeur les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, alors vous vivrez. » On doit prier pour que la crainte de Dieu nous permette de résister à la tentation de sortir de ce feu du fondeur, de ce feu purificateur. Parce que sortir de ce feu-là, peut-être que dans l'immédiat c'est plus confortable, mais ça veut inévitablement dire que l'on replonge dans le four brûlant, le four qui détruit. Que le Seigneur nous aide à rester attachés à sa parole et à l'écoute de son esprit pour qu'il puisse révéler en nous ses péchés et que le Seigneur nous aide aussi à abandonner et à faire mourir ses péchés par son esprit. C'est le défi de la pureté que Malachie nous lance et que nous devons relever avec l'aide de Dieu. Et la question qui nous est posée, c'est est-ce que nous désirons voir ce feu purificateur à l'œuvre chaque jour dans notre vie ? La seconde forme que peut prendre ce feu dans notre vie, ce sont les épreuves de la foi. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul, qui avait sûrement bien lu Malachie aussi. Pardon, l'apôtre Pierre, je me trompe. 1 Pierre 1,6. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre nous dit que le Seigneur nous permet de passer par toutes sortes d'épreuves pour éprouver notre foi, pour affermir notre foi, pour affermir notre dépendance à lui. La plus grande épreuve des contemporains de Malachie, c'était sûrement la fidélité à Dieu, la pureté de leur vie dans ce temps de l'attente. Et c'est peut-être aussi la meilleure façon de résumer notre épreuve à chacun de nous. Quelles que soient nos difficultés spécifiques, et elles sont bien réelles, et Dieu est évidemment sensible à ces épreuves que nous pouvons traverser, mais quelles que soient ces épreuves que nous avons dans notre vie, notre plus grande épreuve, notre plus grand défi sera la crainte de Dieu et notre fidélité manifestée par une vie sainte et pure devant lui. Je le disais en introduction, et on va conclure là-dessus, ce livre de Malachie clôture l'Ancien Testament. Et Malachie laisse ici, quelque part, à son peuple une feuille de route pour les 400 et quelques prochaines années pendant lesquelles ils vont devoir attendre. C'est un message pour un peuple en attente. Et ça a été une attente longue pour eux avant que la gloire de Dieu ne se manifeste à nouveau à Jérusalem en la personne de Jésus-Christ. Et nous, aujourd'hui, on se retrouve de l'autre côté de cet événement historique. Mais le message de Malachie nous parle aussi parce que nous sommes aussi dans un temps d'attente, l'attente de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce livre de Malachie nous met au défi de savoir vivre dans cette façon, dans cette attente, d'une façon qui honore Dieu. Et pour ça, il nous laisse deux clés. Premièrement, on doit être prévenu de ce danger qui a fait chuter les contemporains de Malachie. Le danger de devenir dans cette attente désabusé, blasé et insensible aux effets du péché dans notre vie. Adossé à ce danger, Malachie nous donne aussi un avertissement, celui du four brûlant, le jugement de Dieu pour ceux qui ne le craignent pas. Deuxième clé que nous laisse Malachie, la nécessité vitale de vivre chaque jour dans ce feu du fondeur. C'est une vie qui est marquée par la crainte de l'Éternel, une vie marquée par le défi de la pureté et une vie marquée par la mise à l'épreuve de notre foi. C'est un feu qui transforme ce temps d'attente en une occasion de vivre chaque jour une vie un peu plus pure et un peu plus sainte devant Dieu dans l'attente de son retour. Et à quoi ressemble la vie de celui qui a plus pleinement relevé ce défi-là? Regardez la fin du verset 20. Malachie nous dit « Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable ». J'aime bien ce verset, il est surprenant, il nous fait sourire. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous lisez ce verset-là. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, vous, personnellement, en train de bondir comme des veaux qui sortent d'une étable. Mais Dieu veut nous communiquer quelque chose avec cette image-là. Il veut nous communiquer la joie simple, la joie libre, la joie pure que nous avons et que l'on ressent quand on est passé par ce feu purificateur qui transforme notre vie. C'est une joie qui est limitée par aucune peur et aucune crainte. C'est une joie de celui qui n'a rien à perdre parce qu'il a déjà tout gagné en Christ. Et je sais, quand je regarde ma vie, que dans ma vie, ce feu du fondeur a encore du boulot à faire parce que je n'ai pas l'impression de me lever tous les jours avec cette même joie-là, la joie du veau qui sort d'une étable. Donc peut-être que Dieu nous laisse ça aussi comme un sorte d'indicateur. Mais c'est surtout et avant tout une promesse merveilleuse, la promesse qu'il réserve à ceux qui craignent Dieu, la promesse pour ceux qui auront été fidèles à lui dans l'attente. Que le Seigneur bénisse sa parole.